RCF.
Bonjour à tous et merci d'être fidèles à cette nouvelle émission Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Xavier Mal. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de santé en début de cette émission.
Ça s'entend vraiment que ma voix est un peu prise?
Oui, oui, oui. Pour les personnes qui écoutent régulièrement l'émission, votre voix est fatiguée. Alors, expliquez-nous un petit peu. Vous avez attrapé froid?
Non, c'est sans doute un baptisé de Gap qui m'a transmis un petit virus lors de la Semaine Sainte. Et je me suis réveillé mardi matin avec la tête dans le pâté, comme on dit.
Oui.
Des frissons et tout, donc symptômes grippales, voilà. Mais la table du studio avec les micros est assez large pour que je vous transmette pas mes miasmes. Normalement, ça devrait aller là. Mais ça va déjà un peu mieux, quoi. Mais pour vous dire la vérité, j'avais prévu de faire du ski la dernière fois demain, là. Et je crois que ce serait vraiment pas raisonnable. Donc je vais offrir ça au Seigneur. On a assez d'attention à offrir au Seigneur. Donc voilà, je vais offrir ça au Seigneur.
Quand on est évêque, on peut être malade?
Ah bah, on n'a pas le choix, de toute manière. Même quand on est pape.
Est-ce qu'on peut s'arrêter? La question est...
Il faut bien de temps en temps, là.
Bien sûr.
De temps en temps, ouais.
C'est l'occasion, Monseigneur, de parler de la santé du pape.
Alors, qui est ce qu'on appelle un marronnier journalistique,
voilà.
C'est-à-dire ça revient
oui.
À chaque saison. Dès que le pape fait une pause, si j'ose dire, donc effectivement, pendant la Semaine Sainte, il a décidé de ne pas présider les cérémonies tard le soir du Vendredi Saint. Et alors, ça a été panique à bord chez les correspondants de la presse nationale au Vatican. Après, il était en pleine forme les autres jours. Donc, on sait que notre pape, il a son âge, 87, je crois, de mémoire, qu'il n'a qu'un poumon, et donc, depuis très longtemps, depuis sa jeunesse. Et donc, il est encore plus fragile que moi des bronches. et donc, il a souvent des bronchites, des choses comme ça. Et à son âge, voilà, ça peut se compliquer. Donc, il faut qu'il soit prudent. Mais... La question que les gens se posent, c'est voilà, est-ce qu'on va changer de pape bientôt ou pas? Alors, ce que je peux répondre, c'est que oui, on changera de pape un jour ou l'autre. Hein. Voilà, je suis pas un grand prophète en disant ça. Ma petite intuition est que le pape veut aller jusqu'au bout du synode, donc au moins octobre prochain, et peut-être son application. Donc après octobre prochain, ça dépendra comment il se sent vraiment. Mais je suis persuadé, on verra si l'histoire me donne tort, mais je suis persuadé qu'on ira au moins jusqu'à octobre prochain, la fin du synode.
Ça induit que, si je réfléchis bien, c'est que le synode est important pour le pape.
Ah ben c'est important pour lui, oui, ça fait partie des... C'est lui qui a initié ce thème-là, vous savez, c'est un synode un peu particulier, parce qu'il y a eu des synodes sur plein de thèmes pastoraux. Par exemple, il y a eu un synode sur la confession, il y a eu un synode sur la catéchèse, il y a eu un synode sur les jeunes. Et puis, il y a eu des synodes continentaux. Le dernier continental, ça a été, enfin, géographique, ça a été sur l'Amazonie. Et on espère avoir un jour un synode sur la Méditerranée, suite aux rencontres méditerranéennes. Et là, c'est un synode qui est sur le mode même de fonctionnement de l'Église, un synode sur la synodalité. C'est un synode qui est sur 2 ans, sur 2 sessions, octobre 2023 octobre 2024. On est dans l'intercession, si j'ose dire. Et là, le choix qui a été fait par le service national, la conférence des évêques qui s'occupe de ça, avec les évêques et un petit groupe de travail des évêques pour tous les autres, ça a été de ne pas recommencer toute une grande consultation, parce qu'on finit par s'épuiser, hein, comme on l'avait fait pour la première session, mais là, de plutôt faire un apport de ce qui est peut-être spécifique pour notre pays et qui peut apporter aux autres pays, c'est le fonctionnement des conseils épiscopaux. Les conseils épiscopaux, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit de l'Église et qui s'est mis en place par les ancêtres dans l'épiscopat, nos anciens, et petit à petit, qui au début comprenaient simplement vicaire épiscopal, vicaire général, quelques prêtres, chanceliers, voilà, etc. Et qui aujourd'hui est un véritable conseil qui regroupe tous les états de vie, la communion des états de vie, c'est-à-dire des prêtres, des diacres, des gens mariés, célibataire, je crois que j'en ai pas, à part les prêtres, mais religieuse, j'en avais une, il y avait Sœur Mior, mais elle est partie, et pour l'instant, voilà, j'ai pas discerné quelle religieuse pourrait la remplacer. Voilà, donc c'est un... Alors, on a fait une enquête, la conférence des évêques a envoyé un peu un document d'enquête sur le fonctionnement de chaque conseil épiscopal. Donc, nous, on a répondu. C'est le conseil épiscopal lui-même qui a travaillé ça. C'est un des membres du conseil, après, qui l'a terminé, qui l'a envoyé. Et donc à partir de là, il y aura un document national sur les conseils épiscopaux envoyé à Rome dans le cadre de ce synode, comme un peu la proposition de l'Église de France sur le synode, comme étant un apport de l'Église de France.
Donc d'où l'importance voilà, de bien garder notre regard sur ce synode et puis notre information.
On aura l'occasion d'en parler.
Mais bien sûr, je vous fais confiance, mon ami. Alors, donc, nous allons parler eh bien de la lettre, le message que vous avez donc écrit et proposé pour la fête de Pâques. Hein, cette fête de Pâques qui s'est bien passée pour vous, Monseigneur ?
Alors que c'était à la cathédrale à Gap, oui, c'était magnifique, beaucoup de monde. On est même passé entre les gouttes. Alors, je sais que ce n'est pas été le cas partout. Par exemple, au Lot, ils n'ont pas pu faire, alors que ce n'est pas loin de Gap, hein, de l'autre côté de la montagne, mais ils n'ont pas pu faire le feu à l'extérieur. Ils ont fait un petit brasero à l'entrée de la basilique. Nous, on est passé juste à l'entrée de la cathédrale. Il s'est arrêté de pleuvoir juste à temps. Je crois qu'à Briançon aussi. Dans d'autres endroits, donc ça dépendait des endroits. En tout cas, nous, on a eu cette chance-là. Alors effectivement, j'ai fait distribuer dans toutes les paroisses. Alors si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le trouver sur le site internet, chers amis auditeurs, un message pascal voilà, qui m'est venu pour dire un mot personnel, suite au projet de loi gouvernemental et aux annonces du président, surtout sur l'euthanasie et le suicide assisté. Alors à Lourdes, je me suis demandé, quand j'étais à l'Assemblée des plénières, vous vous rappelez, au mois de mars, on en a parlé un peu, je me suis demandé, je l'avais préparé déjà ce message, il était en cours de relecture, par les membres, notamment les membres du Conseil épiscopal dont on parlait, mais aussi les membres du groupe bioéthique. Vous voyez, quand je sors un document, certes moi qui peux l'écrire, mais après il est relu par beaucoup de personnes. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut que je le sorte ou pas, puisque en réalité, il y a eu déjà, à Lourdes, on a signé un autre document, que vous trouvez aussi sur le site du diocèse ou le site de la conférence, qui s'appelle « Ne dévoyons pas la fraternité ». Vous voyez, ces mots sont un peu forts, en fait. Hein, ces mots sont un peu forts, et quand vous lirez mon message, il est un peu incisif.
Et vous articulez autour de trois mots très forts aussi.
Alors, il est en deux parties. D'abord, un peu une réaction, si j'ose dire, ce qui m'est venu en entendant l'interview du président de la République, qui, d'une manière très astucieuse hein, pour lui, il a fait la même interview dans Libération et dans La Croix. C'est en même temps, vous voyez.
Oui.
Et trois mots me sont venus, qui sont des mots très forts, mais mon objectif, c'est vraiment de faire réfléchir et donc un peu de percuter les personnes. Hein. C'est un message un peu particulier pour ça. Mais je précise bien dans le message, d'ailleurs, que comme ce sont des choses qui nous touchent directement, familialement, évidemment, d'avoir des mots un peu incisifs comme ça, ça peut blesser. Et donc, je préviens les lecteurs qu'ils n'hésitent pas à me contacter, à me parler, qu'on puisse se rencontrer ou rencontrer leur curé pour en parler. Voilà. Et pourquoi
c'est
ça nous touche ? Parce que
voilà, ça permet d'échanger.
En fait,
aussi.
Je crois que d'une part, on est tous touchés par ça, et d'autre part, c'est une conséquence aussi de l'allongement de la durée de vie. Hein ? Donc forcément, quand on mourait à 50 ans, c'était pas la même chose que quand on meurt à 95 ans ou autre chose, un peu diminuée, etc. Donc ça nous touche tous là-dessus, et je crains que nos chrétiens ne se fassent avoir. Par le courant un peu majoritaire en France qui est pour l'euthanasie et le suicide assisté. Or, c'est complètement antinomique, non seulement avec notre foi, mais surtout avec ce que disent les médecins de soins palliatifs. Quoi. Et c'est ça que je voulais attirer l'attention. D'une part, il faut inviter à se former et dire les choses. Alors, il est en deux parties, donc j'ai trois mots qui sont très forts, hein, je vous ai prévenu. Hein. D'abord, c'est une tromperie, ensuite c'est une régression, ensuite c'est l'entrée dans un engrenage. Quoi. Alors une tromperie, en fait, je reprends les mots de Mgr Éric de Montlin-Beaufort, qui est sa première réaction après les annonces officielles. Pourquoi il emploie ce mot tromperie ? Parce que quand il l'avait rencontré lui-même, et puis un groupe d'évêques aussi qui avait été invité à déjeuner à l'Élysée là-dessus, le président avait annoncé que, en fait, ce serait surtout une loi sur les soins palliatifs et qu'il y aurait quelques possibilités d'euthanasie pour les cas très compliqués. Quoi. Alors en fait, en réalité, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est une loi qui autorise le plus largement possible, au maximum tout, et qui traite un peu, pour compenser un peu ça, on augmentera un peu les soins palliatifs. Donc voilà pourquoi c'est une vraie tromperie par rapport à ça. Puis l'autre tromperie, pour moi, c'est ce qu'on a repris dans le terme du message de Lourdes, c'est le dévoiement du terme. Hein. On parle d'aide active à mourir, AAM, aide active à mourir, un peu comme IVG pour pas parler d'avortement. Quoi. En fait, on n'a pas besoin de... Tout ça, ça fait quoi ? Ça cache le geste létal, c'est-à-dire le geste de donner la mort, quoi. Et puis, finalement, aide active à mourir, on encourage une espèce de non-assistance à personne en danger, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, à Marseille, je rappelle les mots très forts du pape François, vous voyez, je m'inscris un peu dans sa lignée, le pape, il peut être très incisif aussi, hein, où il dit « Qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer ?» Voilà, parce qu'on sait que dans les piqûres, il y a aussi du sel, hein, oui. Pour faire mourir les gens, donc... voilà un peu les choses. Donc ma question, faut-il pas plutôt une aide active à vivre qu'une aide active à mourir, quoi.
Donc c'est le terme de la tromperie, la régression.
Alors c'est parce que justement, par rapport, en réalité, c'est une régression sur le modèle français du bien mourir. On dit qu'on meurt mal en France. Ben, ça dépend des départements. Dans les 21 départements où il manque, où il n'y a pas de service de soins palliatifs, oui, on meurt mal. Mais dans les départements, et notamment chez nous dans les Hautes-Alpes, oui. Où on a des très bons services, et merci au docteur Dernieux et d'autres médecins, eh ben non, il y a un vrai accompagnement et j'ai accompagné, enfin, j'ai été visiter des prêtres qui ont terminé leur vie dans ce service-là et c'est magnifique, les familles ont toute leur place. Et donc le modèle français, c'était vraiment les soins palliatifs. Là. Et en fait, en réalité, on va casser complètement ce modèle-là. Et les exemples étrangers nous le montrent, notamment le Canada, où actuellement tout l'argent qui était prévu pour les soins palliatifs en fait sert pour l'euthanasie, quoi. Alors qu'on ne nous fasse pas dire qu'on va donner des sous aux soins palliatifs, parce que ça, plus personne n'y croit. Je veux dire, actuellement, vu l'état des finances de la France, je donne une info, par exemple. Les travaux de la cathédrale de Gap sont arrêtés.
Ouais.
On a fait, vous rappelez, la façade, le portail, côté de la tour. On a fait le côté nord. On a fait, grâce au Covid, on a eu des sous, le plan de relance, on a fait la toiture. Et on devait continuer par le chevet et le côté sud. Et là, on nous a annoncé il y a une quinzaine de jours, ben non, il n'y a plus de sous. Donc chevet côté sud, ça attendra 15 ans, 20 ans, c'est pas... Bon, c'est vrai que le principal est fait, la façade au nord qui est toujours la plus abîmée et la toiture. Mais alors qu'on vient de pas me dire, alors qu'il n'y a plus de sous, que le ministre de l'économie diminue les crédits de tous les ministères, qu'on va mettre des sous dans les soins palliatifs, plus personne n'en croit. Et d'ailleurs, le président s'est engagé à rien. Concrètement, s'est engagé à rien. Je rappelle, par exemple, pour l'assurance maladie, que le gouvernement cherche des sous partout. Il y a un plan pour diminuer les ALD, les remboursements des affections longue durée, etc. Donc voilà, il y a aussi une tromperie par rapport à ça, quoi. Et donc c'est une régression par rapport au modèle français. En fait, on va tuer les services de soins palliatifs petit à petit, quoi.
Et troisième mot très fort, engrenage, monseigneur.
Alors engrenage, parce qu'en fait, on est rentré dans un système qui tourne de plus en plus vite et qui s'emballe, quoi. Hein, et récemment encore. Je rappelle qu'au moment du Covid, on a passé l'allongement du délai pour avorter de 12 à 14 semaines de grossesse. Je rappelle, pardon de le dire à l'antenne, mais il faut le dire, que pour un avortement 14 semaines, il faut écraser le crâne du bébé. Enfin, tout ça est innommable et terrible, quoi. Mais avez-vous vu qu'on est revenu en retard, en retrait, à la fin du Covid ? Parce que c'est fait, soi-disant, pour garantir la possibilité, comme des services étaient fermés, garantir la possibilité d'avorter, quoi. Avez-vous vu qu'on est revenu en arrière ? En fait, c'est un principe du cliquet. On passe un cliquet, puis on va toujours plus loin. Ensuite, il y a eu l'inscription dans la Constitution de l'avortement, on en a parlé. Le gros problème de cette inscription dans l'avortement, à part le fait que c'est un message qui n'est pas positif, pas sur le don de la vie, mais c'est surtout que ce qui a été inscrit, c'est pas l'avortement, c'est la liberté garantie. Donc pour garantir quelque chose, il faut mettre les moyens. Et or, le gros problème, c'est que de plus en plus de médecins, de sages-femmes, d'infirmières refusent de faire des avortements parce qu'ils n'en peuvent plus. On leur fait faire un geste qui est contre nature par rapport à la profession médicale. Et donc, il y a de moins en moins de médecins ou de professions médicales qui acceptent. Et ils ont une clause de conscience. Donc, ça a déjà été annoncé par des députés, hein, qui ont déjà déposé des projets de loi pour supprimer la double clause de conscience des professions médicales par rapport à l'avortement.
Donc là, Monseigneur, dans cette lettre de Pâques, vous constatez la situation. Est-ce que vous offrez des signes d'espérance ?
Alors, je propose, c'est ma deuxième partie, trois petits verbes. Hein. D'abord, je propose d'offrir un peu tous nos efforts de carême passé. Voilà, le fait de ne pas aller au ski demain, c'est idiot de dire ça, mais voilà, le fait de ne pas aller au ski demain, eh bien, je l'offre dans ma prière au Seigneur. J'allais dire à la fois en réparation par rapport à tous ces projets-là. Donc offrir au Seigneur. Deuxièmement, se former. Et sur le site internet, j'étais hier soir au groupe bioéthique diocésain et on prépare il y a déjà une partie bioéthique sur le site et on prépare une série d'articles petit à petit qui seront développés pour aider nos chrétiens à se former. Vous savez qu'on a fait déjà beaucoup de choses. L'année dernière, il y avait toutes les conférences de carême qu'on peut retrouver sur le site, la chaîne YouTube du Lot, sur ce thème-là. Voilà, nous former pour pas être déformés par l'opinion majoritaire, quoi. Et puis enfin, témoigner, c'est peut-être pour moi le plus important, on doit témoigner de la vie. J'ai été enterrer cette semaine une de mes tantes, une belle-sœur de ma maman. Il en reste deux de cette génération. Après, c'est notre génération, nous, qui partirons vers le ciel. Et c'est une tante qui est morte à 95 ans, là, ou 16 ans, je ne sais plus. Elle aurait dû mourir 15 fois parce qu'elle a eu plein de cancers. Enfin, elle a cumulé les malheurs, etc. Et en fait, c'est une tante qui pétillait de joie, quoi, qui rayonnait de joie. Elle avait du caractère, hein. Ça aide sans doute pour surmonter toutes ces difficultés-là. Mais voilà, elle pétillait de joie, quoi. Oui, vraiment. Et jamais je l'ai entendu dire « je veux partir, j'en ai marre de la vie », ou etc. Elle avait encore des projets, elle voulait encore réunir toute sa famille. Elle a eu 6 enfants, je crois qu'il y a 5. Au total, c'est 20 petits-enfants, 20 arrières. Enfin, elle voulait réunir toute sa famille chez moi au Lot, là. Puis ses enfants m'ont dit « non, c'est plus possible ». Voilà. Mais voyez, donc cette beauté de la vie, je crois qu'en chrétien, on doit témoigner que la vie, oui, même si elle est difficile, oui, en fait, elle est belle. C'est un cadeau inouï d'être vivant, d'être l'un en face de l'autre. Là, c'est un cadeau inouï, quoi. Et parce que finalement, la vérité, c'est que notre société n'aime plus la vie. Peut-être parce qu'elle ne sait plus l'origine et la destinée de la vie. Et donc, elle se demande quel est le but, quoi. Elle ne voit plus le but, quoi. Ça, c'est une grande force qu'on a. Et les gens nous le disent, hein. Une grande force qu'on a, les chrétiens. Vous savez où vous allez, quoi.
Alors justement, je pense que la liaison est favorable là, Monseigneur. On va parler de la forte hausse du nombre des catéchumènes en 2023. Alors, des catéchumènes aussi adultes. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous l'expliquez.
Alors, il y a à la fois une forte hausse chez les adultes, mais aussi chez les adolescents et les grands jeunes. Là, j'ai pas les chiffres, mais alors pour les adultes sur le diocèse de Gap, on est passé de 8 à 11. Alors, ça, c'est pas des grands chiffres, ça permet pas forcément de tirer quelque chose, mais en tout cas, c'est à peu près le même pourcentage qu'on trouve dans les grands diocèses quand ils passent de 200 à 300. Voilà. Donc, nous, c'est aussi une belle augmentation.
Juste le nombre peut-être des adultes baptisés donc en 2023, c'est 5463
en France. En France. Voilà. Mais en 2024, c'est 7000.
Voilà.
On est passé de 5000 à 7000, quoi. Hein, voyez. Donc c'est une belle augmentation. Et là, on a eu beaucoup d'inscriptions, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais de personnes qui rentrent en catéchuménat. Voilà, c'est plein d'espérance. Et pour nous aussi, une vraie difficulté à les accompagner. Parce qu'on a un vrai devoir de fraternité, de les accompagner. Ce sont des gens qui arrivent là, vierges de tout savoir, qu'on peut faire de cathé, etc. Donc il faut les accompagner et on cherche beaucoup d'accompagnateurs. Et donc la mission du diocèse, là, c'est plutôt de former les accompagnateurs. Après, c'est aux paroisses de trouver les accompagnateurs. Et voilà, chaque catéchumène a vraiment comme un droit à être accompagné dans son cheminement, quoi.
Alors comment ça se passe, cet accompagnement ?
Alors d'abord, ça dure sur 2-3 ans. Vous voyez, c'est la grosse différence avec les sectes. Hein. Vous connaissez la phrase, on dit que rentrer dans une secte, c'est très facile, mais c'est très difficile d'en sortir. Rentrer dans l'Église catholique, c'est très difficile, mais c'est très facile d'en sortir. Donc chez nous, effectivement, parce qu'on veut pas que ça soit le soir de Pâques et après basta, quoi. Et donc, en gros, on ne souhaite baptiser que les personnes qui ont vraiment déjà progressé sur leur vie de prière, sur la relation avec Dieu, et qui soient déjà des pratiquants réguliers, quoi. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution des catéchumènes par rapport à il y a 25 ans, quand j'ai commencé d'être prêtre. Effectivement, ça m'arrivait de baptiser des gens qu'on ne voyait plus le lendemain, quoi. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a plein d'hypothèses. Hein. Les sociologues des religions se penchent un peu là-dessus. Il y a des articles dans le journal La Croix là-dessus. On va les laisser réfléchir là-dessus. En tout cas, nous, on se réjouit de ça et on essaye d'accompagner. Ouais.
Alors, en me penchant sur votre agenda, Monseigneur, je sais que ce midi, vous mangez avec des agriculteurs. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Alors, nos auditeurs se rappellent qu'il y a eu quand même une grosse mobilisation des agriculteurs pendant quelques semaines, là. Et à l'époque, je n'avais pas... D'abord, pour les laisser tranquilles, ils avaient d'autres chats fouettés. Oui. Mais je me suis dit, c'est une habitude que j'ai de faire une fois par an un déjeuner d'agriculteurs chrétiens. Et donc là, je l'ai maintenu surtout. Et à l'époque, j'avais dit, bon, ben voilà, je fais pas de, de communiqué officiel là-dessus, mais je referai un point avec les agriculteurs. Et donc l'objectif, ce déjeuner à midi, là, midi et demi, c'est de faire un point avec eux, comment faire une relecture, comment ils ont vécu eux-mêmes. Donc ils sont une quinzaine là, à venir déjeuner, comment ils ont vécu eux-mêmes ce temps de mobilisation. Après, on fera une petite relecture avec eux aussi de la journée des agriculteurs chrétiens en novembre dernier, qu'on avait vécu à Rozan, à l'abbaye de Rozan, sur le thème du travail dans la règle de Saint-Benoît, la valeur du travail. Et puis après, on préparera la prochaine journée, qui sera au mois de décembre prochain. Je pense que ça sera, on va discuter avec eux, mais sur le thème de la prière, puisqu'on est dans le cadre de l'année pré-jubilaire sur la prière, quoi. Voilà, donc c'est important pour moi d'être à l'écoute, hein, du monde agricole, parce que vous savez que c'est une des plus importantes activités de notre département avec le tourisme. Je crois que c'est la deuxième après le tourisme. Voilà, et puis il y a beaucoup de chrétiens parmi eux.
Alors, vous parliez de la prière, Monseigneur. Ce week-end, vous allez aussi être à la Ragne, hein, pour parler de la prière.
Voilà, on continue les retraites pré-jubilaires sur le Notre Père. On rappelait que le pape François, en nous invitant à cette année sur la prière, a dit aussi surtout de l'accès sur le Notre Père, comme étant vraiment le trésor des chrétiens. Et donc, je prêche une retraite sur le Notre Père. Alors, les deux dernières que j'avais faites, c'était le samedi des Rameaux à Gap et le dimanche à Briançon. Et là, je vais à Laragne dimanche prochain, effectivement, pour la même retraite. Donc, tous ceux du secteur de Laragne ou ceux qui ont raté à Gap ou ailleurs, vous pouvez aller à Laragne. Puis après, il y en aura d'autres encore un peu plus tard, la Saulx, voilà, j'ai plus les dates en tête. Mais ça viendra, oui.
Un autre sujet, le jumelage d'Assa Doumé, ça avance un petit peu, je pense.
Alors, aussi. Si je peux me permettre, juste oui. Avant...
À Rozan.
Voilà, on peut voilà. Inviter les personnes oui. Aussi qui le souhaitent à aller... C'est le même jour, hein. Mais donc moi, je n'y serai pas, puisque je serai à la Ragne, à l'abbaye de Rozan. C'est une des trois écoles de prière qu'on a lancées pour cette année de la prière. Donc, apprendre à prier. Et à Rozan, ça va être apprendre à prier avec la prière liturgique, avec les psaumes en particulier. Ensuite, il y aura une date à Boscodon qui sera apprendre à prier avec Saint Dominique, puisqu'il y a des dominicains sur place. Et puis au Lot, apprendre à prier avec la Vierge du Lot et Benoît Rancurel. Voilà, trois écoles de prière, trois journées d'école de prière. Donc, j'invite nos auditeurs aussi, tous ceux qui le souhaitent, à aller à Rozan ce week-end. Ouais.
Donc, le jumelage de Assa Doumé, ça avance un petit peu, je crois.
Alors, ça avance au sens où on vient de finaliser la délégation qui partira au mois d'octobre prochain, où ce sera le voyage de signature. Là, vous vous rappelez qu'il y a eu un premier voyage de découverte. De ma part, on était 5 du diocèse à aller à Assa Doumé pour découvrir un peu les lieux, voir est-ce que ça nous convient comme diocèse, etc. Au retour, on a dit oui, ça nous convient. Eux-mêmes sont venus passer une dizaine de jours à Gap au mois de, je sais plus quand est-ce que c'était, 2022, je crois, ou ouais, je sais plus, bon, peu importe. Et nous-mêmes, nous allons donc y retourner en octobre 2024, et là, on sera une délégation de 12 personnes. Et j'ai souhaité emmener une délégation aussi un peu par différents types d'associations qui peuvent être intéressées par le jumelage. Donc on aura un représentant de l'enseignement catholique, qui est un représentant, un président de l'OGEC, OGEC organisme de gestion, voilà, mais qui sera là aussi pour diffuser après l'idée du jumelage dans les écoles, les lycées. Alors on ne va pas emmener des petits bambins à Dassa, hein, parce qu'au niveau santé, ce n'est pas évident, sécurité, etc. Mais il peut y avoir des échanges scolaires, des courriers, des mails, des choses comme ça, quoi. Et puis aussi, j'emmène aussi une représentante de l'association des petits chanteurs, hein, les petits chanteurs des Hautes-Alpes, de la maîtrise de la cathédrale. Voilà, pareil, est-ce qu'on peut faire des échanges entre maîtrises de cathédrale ou voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai oublié. Mais s'il va y avoir aussi les équipes Notre-Dame. Et là, ils ont bien préparé ça. Ils vont rencontrer sur place. On va rencontrer ensemble les responsables des équipes Notre-Dame au Bénin. L'idée, c'est peut-être dans ce diocèse de Assa Doumé, où il n'y a pas encore les équipes Notre-Dame, de créer les équipes Notre-Dame là. Voilà. Vous voyez, des exemples d'échanges, de partage de bonnes pratiques, comme on dit, hein, entre nous, quoi. Et puis, ce sera l'occasion donc, de signer officiellement la charte du jumelage, quoi.
Donc, nous suivrons ça avec intérêt, Monseigneur. On va passer à l'enseignement avec le texte du pape François, c'est la confiance.
On arrive à la fin, je suis au paragraphe 45 et il y en a 53, donc on avance. Hein. Le paragraphe 45, le cercle se ferme, dit le pape, c'est la confiance. Hein. C'est la confiance qui nous conduit à l'amour, nous libère la peur. Je vous rappelle que c'est un texte à partir de paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est la confiance qui nous aide à détourner le regard de nous-mêmes. C'est la confiance qui nous permet de remettre entre les mains de Dieu ce que lui seul peut faire. Et cela nous laisse, dit le pape, un immense torrent d'amour et d'énergie disponible pour rechercher le bien des frères. Voyez, on peut appliquer ça à tous les sujets graves dont on vient de parler, parce qu'on peut quand même être très inquiet de la situation de la France au niveau bioéthique. Voyez. Alors certes, il faut agir, certes, il faut nous former, il faut réagir, etc. Mais derrière, il faut tout remettre au Seigneur. C'est ça aussi, hein, c'est la confiance, l'offrir, l'offrande, c'est ça aussi. Remettre au Seigneur, c'est lui qui peut agir. Quoi. Voilà. Ainsi, au milieu de la souffrance de ces derniers jours, Thérèse pouvait dire « Je ne compte plus que sur l'amour ». À la fin, seul compte l'amour. La confiance fait jaillir les roses et les répand comme un débordement de la surabondance de l'amour divin. Alors, son dernier chapitre, au cœur de l'Évangile. Alors, il rappelle que dans la joie de l'Évangile, hein, il a insisté sur l'invitation à revenir à la fraîcheur de la source, qui est évidemment l'Évangile. Alors, cette exhortation sur Sainte Thérèse, dit-il, me permet de rappeler que dans une église missionnaire, l'annonce se concentre sur l'essentiel, ce qui est le plus beau, le plus grand, le plus attirant et le plus nécessaire. La proposition se simplifie sans perdre profondeur et vérité et devient ainsi plus convaincante et lumineuse. Le cœur lumineux, c'est la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus mort et ressuscité. Voilà le cœur, ce qu'on appelle le kérigme. On a déjà parlé du kérigme ensemble, après le rassemblement kérigma. Oui. Cœur lumineux, c'est la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Mystère de Pâques qu'on vient de vivre. Tout n'est pas central, il y a un ordre, une hiérarchie entre les vérités de l'Église. Cela vaut autant pour les dogmes de foi que pour l'ensemble des enseignements de l'Église, y compris l'enseignement moral. Le centre de la morale chrétienne, c'est la charité, qui est la réponse à l'amour inconditionnel de la Trinité. C'est pourquoi les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'Esprit. À la fin, seul l'amour compte. Oui. Et puis le pape poursuit, l'apport spécifique que nous offre Thérèse comme sainte et comme docteur de l'Église n'est pas analytique comme saint Thomas d'Aquin, son apport est synthétique, elle synthétise tout, son génie est de nous conduire au centre, à l'essentiel. Oui. C'est la confiance. Quoi. Alors, on avance un peu. On cite parfois seulement des expressions périphériques de cette sainte. Voyez. Mais en fait, il nous dit qu'il faut aller au cœur. Hein. Au cœur, c'est ça. Et il dit que Thérèse, c'est vraiment le docteur de la synthèse. Quoi. Alors, du ciel à la terre, l'actualité de sainte Thérèse. Il a un beau paragraphe où il parle de l'actualité du message de Thérèse de Lisieux. En un temps qui nous invite à nous enfermer dans nos intérêts particuliers, Thérèse nous montre qu'il est beau de faire de la vie un don. À un moment où les besoins les plus superficiels prévalent, elle est témoin du radicalisme évangélique. En un temps d'individualisme, elle nous fait découvrir la valeur de l'amour qui devient intercession. À un moment où l'être humain est obsédé par la grandeur et par de nouvelles formes de pouvoir, elle montre le chemin de la petitesse. En un temps où de nombreux êtres humains sont rejetés, elle nous enseigne la beauté d'être attentif, de prendre soin de l'autre. Et puis, il continue toujours un peu cette actualité du message de Thérèse. À un moment de complexité, elle peut nous aider à redécouvrir la simplicité, la primauté absolue de l'amour, la confiance et l'abandon, en dépassant une logique individualiste, légaliste et moralisante. Voilà.
Il y a beaucoup de modernité dans cette analyse.
Oui, chez Thérèse, en fait, même si elle est de la fin du siècle dernier, fin du siècle précédent, même 19e. Hein. Voilà. Un siècle et demi après sa naissance, Thérèse est plus vivante que jamais au cœur de l'Église, dit le pape. Hein. Et alors il s'adresse pour terminer, on terminera par là. Chère Sainte Thérèse, l'Église a besoin de faire resplendir la couleur, le parfum, la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses. Parce que vous savez, elle dit, je passerai ma vie à faire du bien sur la terre, j'enverrai des pétales de roses, etc. Envoie-nous tes roses. Aide-nous à avoir toujours confiance, comme tu l'as fait, dans le grand amour que Dieu a pour nous, afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté. Amen. Et comme ça, on a fini cette lettre. Alors, ce serait bien que nos auditeurs nous disent un peu, est-ce qu'ils sont intéressés toujours par cette lecture commentée que je fais des grands textes de l'Église, ou pas?
Pourquoi on l'appelle petite voix? Vous pouvez nous...
La petite voix de Sainte Thérèse, oui. Parce que ce n'est pas faire des grandes choses, c'est des petites choses, c'est ramasser quelque chose qui tombe par terre avec amour. Quoi. C'est ça la petite voix, c'est des petites choses. On peut mettre beaucoup d'amour dans les petites choses. Quoi. Voilà. Eh ben, c'est tout l'amour que je veux transférer à nos auditeurs, que je veux transmettre à tous nos auditeurs.
Et vous avez raison, Monseigneur, donc, d'appeler les auditeurs à réagir à vos enseignements et savoir si on continue sous cette forme ou pas. L'opinion des auditeurs nous intéresse en tous les cas. Vous pouvez vous poser vos questions sur le mail de la radio. contact@rcf05.fr. Monseigneur, soignez-vous bien.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci,
au revoir.
Au revoir.